Nous vous bénissons, Seigneur, parce que nous sommes très contents d'être là. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous sommes dans une bonne église qui est remplie de foi, qui est remplie de la parole, de la connaissance. Dieu est bon. Et aujourd'hui, nous parlons aussi de la volonté de Dieu. Dieu a une volonté pour ses enfants et pour son peuple. Amen. Ok, et dans la volonté de Dieu, quand nous lisons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 10, Dieu nous explique quelle est sa volonté. Dieu a une volonté pour ses enfants et sa volonté, elle est expliquée dans la Bible. Ce que nous sommes, donc, nous voyons que nous sommes. Amen. J'aime la Bible et la Bible nous dit ce que nous sommes. Ce que nous sommes, nous le devons à qui? À Dieu. Il nous a créés en Christ pour nous faire accomplir. Dans la communion avec lui, les bonnes actions qu'il a préparées d'avance depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu. Celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Ah! Il y a un chemin qui a été préparé afin que nous n'ayons qu'à y marcher. Oh! Je ne peux pas marcher sur un chemin si je ne connais pas le chemin. Tu es d'accord avec moi? Ok. Quelqu'un qui te dit, ok, comme moi, j'aime beaucoup du coup bouillon poisson. Il dit, pasteur, on a préparé le coup bouillon poisson, toute la marmite est pour toi. Ce soir, viens manger. Mais le problème, c'est que on m'a préparé à manger, mais je ne connais pas l'endroit. La nourriture est préparée quelque part. Il faut que j'aille manger ma nourriture après que j'ai fini le culte. Mais il faut que j'y aille. Je dois emprunter un. Qui doit m'expliquer le chemin? La personne qui a, qui met. Quand nous venons à Dieu, il a dit, il a préparé, mais il faut que vous expliquiez le chemin. Mais maintenant, nous, imaginez-vous, on a préparé pour moi un coup bouillon poisson. Le pasteur vient manger. Alors moi, avant d'aller manger, je pars chez Fredo. J'achète des hamburgers, j'achète encore du poisson. Tu comprends? Et j'y vais avec. La personne va dire, mais pasteur, c'est pas ça. Parce que les hamburgers de Fredo là vont te faire encore grossir. Tu comprends? C'est comme ça qu'on fait avec Dieu. Dieu a tout préparé, mais en chemin, nous voulons toujours prendre des choses. Dieu, je viens avec ça. Il dit, non! Toi, trouve simplement les chemins. Marche! Et viens, la table elle est prête. Qui a déjà lu la Bible dans le livre des psaumes? Qui connaît le psaume 23? Qui le connaît? Qui peut le répéter sans lire sa Bible? Levez la main. Neftali, Bougamé, viens là. Ok, nous allons écouter le psaume 23. Tout le monde le connaît. Vas-y, à haute voix. Viens, Neftali.
Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Je me conduis près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme.
Oh la honte, oh la honte. L'Éternel est mon. Je ne manquerai de. Regardez cette affirmation. David commence à dire, du fait qu'il est mon berger, il n'a pas dit le fait que j'ai. Du fait qu'il est mon berger. Comprenez bien, je vais vous expliquer. Du fait qu'il est mon berger, automatiquement, du fait qu'il est mon berger, je ne manquerai de. Pourquoi je ne manquerai de rien? Parce qu'il est. S'il est berger, moi je suis qui? Vous savez pourquoi il nous manque des choses? Parce que nous ne connaissons pas qui nous sommes par rapport à Dieu. Ce qui te fait avoir ce que tu as, ce n'est pas ce que tu as fait, c'est ce qu'il a fait de toi. Cette version dit ce que nous sommes. Nous avons par rapport à ce que nous sommes. J'aime la Bible. J'ai lu ma Bible cette nuit et Dieu a attiré mon attention sur un verset que j'aime beaucoup. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son, la première chose que Dieu nous donne, c'est quoi? Le pouvoir de faire quoi? De devenir qui? Pouvoir de devenir, de devenir. Il y a un pouvoir qui t'amène à. Mais la première chose que nous cherchons, ce n'est pas c'est pourquoi nous avons reçu le pouvoir de devenir, mais c'est pourquoi nous voulons que ça puisse se faire. Qui comprend ce que je dis? Tu reçois de Dieu pas par rapport à ce que tu lui demandes ni à ce que tu fais. Tu reçois de Dieu par rapport à ce qu'il veut que tu sois. Qui comprend? Donc, si je sais que je suis son enfant, ok, vous avez compris. Tout dépend de qui je suis par rapport à lui. Mon attitude change par rapport à qui je suis à son égard. Mon attitude ne change pas par rapport à mes problèmes. Mon attitude devant les problèmes change par rapport à qui je suis. Donc, la Bible dit ici que Dieu a préparé des choses avant que nous puissions naître, avant que nous puissions être formés, forgés. Dieu a préparé des choses. Mais ces choses qui sont préparées, il suffit simplement de trouver le chemin afin que nous puissions emprunter ce chemin. Donc, on a vu que la première chose que Dieu fait quand il nous amène, c'est de nous faire connecter avec des personnes qui ont été avant nous, au travers de que nous puissions apprendre. Et le deuxième point, nous avons dit, c'est quoi? C'est maintenant, quand nous sommes connectés, nous apprenons la façon de faire de Dieu qu'on appelle la sagesse. Et maintenant, dans cette façon de faire, Dieu maintenant est appelé, quand nous apprenons sa façon de faire, de nous éprouver. Mais avant qu'il puisse nous éprouver, il manifeste dans notre vie de faire comprendre que tout ce qu'il fait pour nous, il est fait que par grâce et par sa faveur. Donc, si nous voulons continuer dans ce chemin, nous devons maintenant apprendre à connaître sa grâce et sa faveur. Le quatrième point maintenant, après que nous avons compris la sagesse et la grâce et la faveur, le quatrième point, nous devons maintenant passer des preuves. Nous devons maintenant être testés. Si ce qui a été assimilé par nous, si ce qui a été reçu par nous a été bien assimilé, il faut que nous soyons éprouvés pour que l'épreuve produise quoi? La patience. La patience nous permet à ne rien manquer par rapport à ce qu'il a préparé pour nous. Ok? Et après maintenant, dans la patience, maintenant, Dieu sait qu'après la patience, il y aura des persécutions. Nous avons lu un verset qui a dit que nous recevrons au centuple. Dieu ne veut pas te donner dixième,
c'est loin. Centième, ça n'a rien à voir avec centuple. Dizaine, voilà. Donc, Dieu ne veut pas te donner une bénédiction en dizaine, Dieu veut te donner en centuple. Pour avoir centuple, la centuple rime avec persécution. Qui comprend? Ce qu'il a préparé pour toi, tu vas l'avoir, mais dit, mais tu ne l'auras pas comme ça. Il faut que tu sois père. Ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Donc, si je suis persécuté, je suis paré pour. Si je ne suis pas persécuté, je ne suis pas paré pour. Vous parez? Maintenant, la persécution m'amène dans une nouvelle dimension pour que je reçoive. Me prépare à être dans des conditions favorables à recevoir. Ok. Maintenant, quand je sors maintenant de la persécution, la persécution me permet maintenant de pouvoir élargir ma foi. Voilà pourquoi la foi doit grandir. La foi est déposée tout d'abord comme une graine qui est donnée comme un don. C'est par grâce que vous êtes sauvés. La foi est donnée gratuitement. Mais cette mesure de foi qui est déposée en nous est appelée à grandir. Il y a une petite foi, il y a une foi faible. Il y a une foi qui doute, Jacques nous dit, si tu as une foi qui doute, qui vacille, il y a une foi forte, il y a une foi ferme. Vous comprenez? Maintenant, Quand tu arrives dans la dimension de la foi ferme maintenant, il faut que maintenant tu comprennes maintenant. Parce que quand tu arrives dans la croissance de la foi ferme, il faut que tu comprennes maintenant qu'il ne suffit pas d'avoir une foi ferme, mais il faut que tu touches toutes les dimensions de la foi. La foi se donne comme don gratuit qui nous amène au salut. Mais cette foi qui nous amène au salut est appelée maintenant à atteindre la quatrième dimension. Parce que les choses ne se passent pas dans la troisième dimension. Je vais essayer de vous expliquer ça. Vous savez que les sorciers, quand ils agissent pas dans la troisième dimension, c'est dans la quatrième dimension. Le diable sait agir dans la quatrième dimension avec les démons, les sorciers. Mais les seules personnes qui ne savent pas agir dans la quatrième dimension, c'est quoi? Ce sont les chrétiens. Mais les enfants de Dieu agissent dans la quatrième dimension. La différence entre Jésus-Christ et les pharisiens, parce que Jésus était un fils de Dieu. Les pharisiens étaient les chrétiens sont des religieux. Quand vous lisez l'histoire chrétienne, vous allez vous rendre compte que l'histoire chrétienne n'a rien à voir avec ce que la Bible a dit. Rien. Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, ce n'est pas important. Mais faites l'étude vous-même, instruisez-vous. Voilà pourquoi je n'aime pas qu'on m'appelle chrétien. Je suis un fils. Je suis né dans une famille. Comment moi qui suis né en Afrique, vous qui êtes né ici, on s'appelle frère. Comment on s'appelle frère et soeur? Ça vient d'où? Je suis né en Afrique, vous êtes né ici. Il n'y a rien qui nous unit naturellement. Pourquoi on peut s'appeler frère et soeur? Si on est frère et sœur, ça veut dire quoi? Nous sommes nés quelque part. Nous sommes nés où? Alors, si nous sommes frères et sœurs, nous avons un père. Alors, pourquoi moi qui ai un père, vous qui avez un père, nous portons le nom de celui qui n'est pas notre père? Chrétien, ce n'est pas ce que Dieu a appelé. C'est ce que le monde appelle. C'est une appellation mondaine qu'on nous a. On a mis sur nous à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom. Elle a donné le pouvoir, pas de devenir chrétien, devenir enfant de Dieu. Tout commence par votre identité. Refusez. Vous avez le choix. Si vous acceptez qu'on vous appelle chrétien, vous limitez votre potentiel. Si vous acceptez qu'on vous appelle chrétien, vous limitez votre potentiel. Parce que dans l'histoire chrétienne, il y a la guerre qu'on appelle la croisade chrétienne. Jésus-Christ n'a pas été combattre pour sauver les gens. Tu comprends? Ok, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais j'essaie de faire une parenthèse. Alors là maintenant, on s'est rendu compte que la foi doit atteindre la quatrième dimension. Dans la quatrième dimension, tu n'agis plus dans le naturel, tu agis dans le spirituel. Là, tu revêts maintenant l'image et la ressemblance de ton Père. Quand Dieu a commencé à créer le monde, il n'a pas créé comme ça directement. Il a commencé à parler. Il a amené tout d'abord à l'existence. Il y a une différence entre amener à l'existence des choses et matérialiser des choses. Tu amènes à l'existence des choses quand tu parles. Quand tu parles, tu commences à affecter ou changer l'atmosphère. Ou tu commences à préparer l'atmosphère. Je vais vous expliquer ça différemment. Nous vivons sur Terre. Sur Terre, la Terre en réalité n'a pas un problème. C'est le cosmos où les systèmes spirituels ou l'environnement atmosphérique spirituel qui est un problème. La Bible dit que le diable a été précipité. Il a été précipité sur la terre. Mais le diable, c'est un esprit. Il ne peut pas vivre sur la terre. Donc, il vit dans l'atmosphère cosmique. Mais dans cette atmosphère cosmique, qu'est-ce qu'il fait? Il influence. Donc, le diable, maintenant, étant esprit, il peut pas vivre sur terre. Donc, il est venu comme un squatter. Il veut squatter la terre. Or, il ne peut pas squatter la terre parce qu'il est esprit. La seule façon pour lui de vivre sur terre, il faut qu'il se matérialise. Or, il ne peut pas se matérialiser parce qu'il est esprit. Vous commencez à comprendre. Mais il faut maintenant qu'il se matérialise. Il va se matérialiser comment? c'est quand maintenant il influence des êtres humains qui sont physiques. Maintenant, il y a les diables, il y a aussi Dieu. Donc, dans l'atmosphère cosmique, il y a l'influence de Dieu, il y a l'influence du... Les diables et Dieu savent qu'ils sont limités si un être humain ne lui donne pas accès. Dieu ne peut rien faire si toi et moi, nous ne lui donnons pas accès. Voilà pourquoi Dieu veut sauver l'humanité. J'aime ça. Il veut sauver l'humanité. Il va trouver une jeune fille qu'on appelle Marie. Dieu qui a créé l'humanité entière, lui-même a besoin de la volonté d'un être humain pour faire sa volonté. Quelle grâce, quelle faveur. Réjouis-toi que tu sois né être humain. Un jour, avec ma femme, on était dehors, on regardait, il pleuvait. Et ma femme a regardé et dit, ah, je suis heureuse d'être créée un être humain. Parce que regarde, nous sommes là, il pleut, l'arbre est là, il ne peut pas bouger. Il reçoit toute la pluie. On a vu le bœuf qui était là, le bœuf ils étaient là, il recevait toute la pluie. J'ai dit merci. La Bible dit je suis une créature si merveilleuse. Regardez maintenant, Dieu ne peut pas agir si vous et moi nous ne donnons pas accès. Les diables non plus. Tout dépend de toi. Ni de Dieu, ni du diable, de toi. Tout dépend de toi. Dieu maintenant, il veut sauver l'humanité. Il dit à Marie, donne-moi ton corps. Si tu me prêtes mon corps, je vais libérer ma volonté et Israël, l'humanité sera sauvée. Marie a dit, ok. Mais sachez, quand vous dites, ok, la Bible dit, pour que cette bénédiction se matérialise, il faut passer par des... Qui commence à comprendre? Il faut que nous soyons maintenant préparés. Alors la foi maintenant te permet maintenant d'amener à l'existence ce que Dieu a déjà créé avant que toi tu sois né. Or, nous avons essayé rapidement, je vais lire mes notes. Donc, la foi est une ferme assurance des choses qu'on... une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi permet de voir l'invisible comme si elle est devenue visible. La foi te permet de voir l'invisible comme si elle est devenue visible. Fortifié par la foi, il a bravé la fureur du roi et quitté l'Égypte aussi intrépide et ferme que s'il avait vu de ses yeux le Dieu. Hein? Qu'est-ce que la foi te permet de voir les choses invisibles comme si tu les voyais dans le visible? Avec tes yeux visibles ou naturels. C'est ça la foi. Un exemple, c'est dans Hébreux 11, verset 27. Moïse se trouve devant Pharaon. Ok? Et on le menace de mort. On lui dit, tu vas nier ton existence israélite ou juif. Pour que tu puisses rester égyptien. La Bible dit, Pharaon est devant lui. Il voit Pharaon. Il sait que Pharaon a la puissance de le tuer. Mais la foi maintenant lui fait dépasser Pharaon. Ses yeux voient Pharaon. Mais au lieu de voir Pharaon, il voit, après Pharaon, il voit les dieux invisibles. Je ne sais pas si vous avez compris. Le problème est là. Le problème existe bel et bien. Et on t'a dit, c'est fini. Tu es cuit. C'est fini. Où tu es à l'hôpital, on t'a dit, c'est fini, tu vas mourir. Ok. Mais la foi maintenant te fait voir, au lieu que tes yeux s'arrêtent à ton problème qui t'a dit, c'est fini, la foi te fait aller au-delà. Tu ne vois pas. Je ne sais pas si j'essaie de comprendre. La foi, parce que... Comment expliquer ça? Comment je peux expliquer ça? Tu es devant un problème. explique ça différemment. Tu es devant un problème. Le problème est là. Au moment où tu es devant un problème, tu sais que le problème est là. Et tu sais que tu n'as plus de solution. Tu sais sûr et certain que tu n'as plus de solution. Le problème est là. Et tu sais que c'est fini. Maintenant, tu te tournes maintenant vers la Bible. Tu ouvres la Bible. Tu lis un verset. Le verset maintenant te dit le contraire de ce que tu vois. Ce que tu vois est réel. Mais ce que tu lis n'est pas vraiment réel, n'est pas tangible. Mais maintenant, la foi, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que ce que tu as lu maintenant, que tu puisses commencer à le visualiser. Bien compris? Tu ne vois plus ce que tu vois avec tes yeux, mais tu visualises maintenant ce que tu viens de lire. Même si je vois ça avec mes yeux, mais je dis à mes yeux, tu dois porter des lunettes spirituelles pour voir. Tu comprends? Mais maintenant, il faut que ta foi rentre dans cette dimension. Or, elle ne peut pas rentrer dans cette dimension avant que tu passes toutes ces épreuves-là. Toutes ces dimensions-là. C'est facile de dire qu'on a la foi. Mais on est vraiment dans une situation difficile pour dire qu'on a la foi quand on est vraiment dedans. C'est facile de dire à tout le monde, « Aie la foi ». Mais soi-même, quand on sait que tout tremble, quand tout bouge, quand on... Mais maintenant, il faut que ta foi passe toutes ces dimensions-là pour que tu arrives dans la dimension. Tu vois, on t'a dit c'est noir. Toi, tu dis, mais moi, Dieu m'a dit c'est blanc. Tu m'as dit, tu n'as pas vu que c'est noir. Tu dis oui. C'est ce que vous voyez, mais ce n'est pas ce que je vois. Sachez que la foi et la folie est séparée par elle. Donc la foi et la folie marchent souvent ensemble. Parce que quand tu as la foi, les gens qui voient dans le physique vont dire que tu es fou. Ou fou quoi. C'est pas grave. Tu ne vois pas. Tu dis, c'est ce que toi tu vois, mais c'est pas ce que moi je vois. Ou fou quoi. C'est pas grave parce que la foi et la folie marchent ensemble. La Bible dit que c'est une folie. Pour ce qui, c'est quoi sage? Mais la Bible dit c'est la sagesse, c'est la façon de faire de Dieu. Comment pouvez-vous comprendre un vieillard de 6 ans, de 500 ans? On lui dit qu'il est cultivateur, on dit bon, ok, je vais tuer le monde. Construisez une arche. Un cultivateur qui sort, qui n'a jamais été à une école, qui vous dit voilà, Dieu m'a donné un plan, je vais construire une arche. Quand tout le monde dit, ou fou ou quoi? Attendez, attendez. Prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles. Hébreux 11. Les gens vont t'appeler fou. Les gens vont te tuer, devenir dingue. À force d'écouter cet Africain-là, ou fou quoi? C'est pas grave. La foi et la folie se minent ensemble. Hébreux 11. J'ai une bonne nouvelle. Tu ne peux pas accéder là où Dieu veut que tu accèdes si tu marches avec les choses visuelles. Tu dois voir au-delà. Tu dois voir là où les hommes ne voient pas. Tu dois voir comme les hommes ne voient pas. Tu dois marcher comme tout le monde ne voit pas. Les gens voient que c'est un danger, mais toi tu vois que le salut va sortir du danger. Les gens voient que c'est fini, tu es cuit, mais toi tu vois c'est le commencement d'un nouveau commencement qui commence. Lisons la Bible tous ensemble, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on... Une démonstration de celles qu'on est. Donc, j'ai lu ma version. Ma version dit ceci. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Il fallait que je commence avant moi aussi. Hein? Ma version dit, qu'est-ce qu'est-ce et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière, écoutez bien, c'est une manière de les posséder déjà par avance. Tu n'as pas la chose, mais tu possèdes une ferme assurance avant que, comme je dis, c'est le titre de propriété. Tu n'es pas encore entré dans la maison, mais tu sais que j'ai une maison. À cause de quoi? Pas à cause de la maison, à cause du titre de propriété. Et tu peux même avec un titre de propriété aller prendre, aller à la banque et dire j'ai une maison. Quand vous allez à la banque, vous amenez votre maison, on vous demande quoi? Dis, maman, on vous demande un papier. Vous, qui amène sa maison à la banque? Non, un titre de propriété. Mais tu sais que Dieu t'a donné un titre de propriété. On va le savoir tout à l'heure. Il dit, quoi? C'est être absolument certain de la réalisation de ce qu'on ne voit pas. Je ne vois pas, mais je sais que ce que Dieu m'a dit va se réaliser. Donc je ne vois pas ce que je vois physiquement. Je vois ce que j'ai vu dans la parole et je l'imagine maintenant. Si les hommes d'autrefois ont été approuvés par Dieu, c'est parce qu'ils ont eu cette foi-là. C'est qui va m'aider là? Je vais descendre près de vous. Je sens que là je suis loin. C'est la foi qui nous fait connaître que l'univers a été créé et ordonné par une parole de Dieu. C'est-à-dire que le monde visible, est sorti du néant. Donc, le monde visible est sorti du néant. Rien n'existait avant que tout soit mis en existence. Mais la foi fait que quand Dieu s'est réveillé, un jour il dit, je vais créer André. Et André existait avant même que André soit sur terre. André n'a pas seulement existé, mais Dieu a commencé à dire, voilà les plans que j'ai fait pour André. Maintenant, André ne peut pas être envoyé à l'époque de Jésus, parce qu'à l'époque de Jésus-Christ, André n'allait pas comprendre. Dieu a préparé cette époque pour envoyer André. Dieu appela André, pas le jour où André est né, le jour où Adam fut créé. Il dit, c'est-à-dire que le monde invisible est sorti du néant et que tout ce qu'on voit procède de l'invisible. Donc ce que tu vois procède de l'air. Il fallait qu'un jour un homme pense. Il se regarde et dit, ah, je dois quand même m'asseoir. Dans son invisible, il s'est créé une chaise. Tu as compris? La chaise sur laquelle tu es assise là, ce n'est pas une chaise qui est venue comme ça. Un jour un homme est resté, il a pensé. Et quand il a pensé, il a commencé à se faire une chaise. La chaise, elle a existé avant même qu'elle soit matérialisée. Donc, tes affaires existent avant même qu'elles soient matérialisées. Avant que nos enfants aillent à l'école, leur fourniture existait déjà. Par rapport à quoi? La liste scolaire. Dès qu'ils amènent la liste scolaire, les enfants savent que les jours de la rentrée, ils auront l'air maman. Ça existe. Mais ils attendent quoi? Les jours de là, leur fourniture n'existe pas les jours où ils sont rentrés. Leurs fournitures ont été acquises les jours où vous et moi nous avons reçu la liste. Les enfants savent que le jour de la rentrée, ils ont leur fourniture. Mais vous savez, les enfants ont tellement la foi. Quand vous allez avec eux au supermarché, ils vous montrent déjà ce qu'ils veulent. À la rentrée, ils ont ce qu'ils vous ont montré. Voilà pourquoi Jésus-Christ s'est dit, soyez comme des petits enfants. C'est ça la foi. Amener à l'existence des choses que tu ne vois pas. Dieu l'a dit, si Dieu l'a dit, je le fais. Quand Dieu a dit à Noé, fais une arche. Noé ne connaissait rien, mais Dieu savait que cela existait. Il dit à Noé, je vais arriver là. Voilà. C'est sa foi qui a inspiré Abel, un sacrifice plus agréable à Dieu que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il fut déclaré juste, Dieu lui témoigna son approbation en acceptant ses offrandes, bien qu'il soit mort. Il continue à nous parler par sa foi. C'est à cause de sa foi qu'Enoch, alléluia, fut enlevé auprès de Dieu sans avoir dû passer par la mort. Un jour, on ne l'a pas trouvé parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend témoignage qu'il avait été agréable à Dieu. Or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être à. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui les cherchent de tout leur cœur. C'est la foi qui a fait agir. La foi fait agir. Vous savez, quand vous avez la foi, vous agissez. Parce que vous agissez selon ce que vous voyez dans l'esprit, pas selon ce qui se passe là. Vous avez la foi tellement à tel point que vous faites les choses qui semblent insensées aux autres. La Bible dit, votre version dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti, construisit une arche. Divinement averti. Averti de quoi? Des choses qui vont. Quand vous avez la foi, vous précédez tout le monde. Ok? Vous faites des choses que tout le monde ne peut pas faire. La foi te fait faire des choses que toi tu vois dans ton esprit que les autres ne voient pas. Si vous marchez par la foi, vous serez toujours à l'avance par rapport aux autres. Quand vous allez faire ça, ça ne peut pas marcher. Mais au bout de quelques jours, après, ils vont se dire, mais vous avez dormi ou quoi? Non, vous ne dormez pas. Vous n'êtes pas dans la quatrième dimension. Qu'est-ce qu'on pense que j'essaie de dire? La quatrième dimension, c'est faire des choses que tu ne vois pas dans ta vue visuelle, mais que tu as reçues dans ton esprit. Les gens ne vont pas te comprendre. Les gens ne vont pas te saisir. Les gens ne vont pas te suivre. Les gens ne vont pas dire non. Ça va échouer. Ce que les gens ne comprennent pas, toi tu l'as reçu et tu es la seule personne à rendre compte. Tu es la seule personne à rendre compte. Dieu n'a pas besoin des autres. Dieu a besoin de ta foi. Et la Bible dit ici, Dieu avait parlé d'événements futurs que rien ne laissait prévoir. Quand vous marchez dans la foi, rien ne laisse prévoir que dans le naturel, ça va marcher. Vous avez l'impression comme si vous allez échouer. Naturellement, il n'y a rien qui vous soutient pour faire cela. Il n'y a rien qui vous assure que vous allez réussir. Il n'y a rien qui vous garantit que vous aurez du succès. Rien. La Bible dit, c'est par la foi que les choses visibles sont sorties du néant. Non, il n'y avait rien pour que rien. Vous savez quoi? J'ai compris une chose. Ne vous en faites pas quand tout le monde dit que vous êtes rien. Quand on vous dit que vous êtes rien, c'est le bon chiffre pour Dieu. Ce n'est pas un problème quand on dit que vous êtes un zéro. Il suffit qu'on mette un chiffre devant les zéros. Et devant les zéros, on ne met pas n'importe quel chiffre. On met une personne qui s'appelle Jésus. Ce n'est pas un problème qu'on te dise que tu es rien. Mais le seul chiffre qui avale tous les chiffres, c'est zéro. Multiplié par tous les chiffres, vous aurez zéro. Qui a compris? Multipliez tout par zéro, vous aurez toujours. Mais mettez n'importe quel chiffre devant zéro et le zéro qui est derrière aura toujours de l'importance. Donc, même si vous voyez rien dans le naturel, rien, mais tant que Dieu vous a dit, peu importe le temps que ça vous prendra. Parce que vous ne pouvez pas arriver dans cette dimension-là si vous n'êtes pas passé par ces choses-là. Parce que dans la dimension de cette foi, c'est vous maintenant qui commencez à créer l'atmosphère, à créer la situation. Ce n'est plus les circonstances qui vous conduisent. C'est vous qui gérez les circonstances et les situations. C'est vous qui mettez des choses en place. C'est vous qui devenez le boss. Tu comprends? Dans cette dimension de foi, c'est vous qui décidez des choses. C'est vous qui créez une atmosphère qui change. Dans cette dimension de foi, c'est vous maintenant qui... Comment pourrais-je dire? En réalité, c'est vous qui créez ce que vous voulez par rapport à ce que Dieu vous a dit. Mais vous ne pouvez pas arriver là si vous ne commencez pas à voir comme Dieu voit. C'est par la foi. La Bible dit Enoch. Enoch ne faisait que marcher. On voyait chaque jour Enoch sortir et revenir. Il sortait et il revenait. Il sortait et revenait. Les gens disent, mais il sort, il revient, il sort, il revient. Qu'est-ce qu'il fait? Tout le monde vous voit chaque mercredi venir prier et vous rentrez. Chaque vendredi, vous rentrez. Chaque dimanche, il dit, on ne voit rien. Ce n'est pas grave. On n'a pas besoin de voir. Je n'ai pas besoin de voir. Mais je sais qu'à chaque fois, quand je vais, je sors. Même si je ne vois rien dans les naturels, mais dans les spirituels, je suis en train de créer quelque chose. Alléluia! Enoch sortait. Vous savez qu'Enoch, quand Enoch fut enlevé, Adam était encore vivant. Si, Adam est encore vivant. Adam marche avec Dieu. Je vais vous apprendre une bonne nouvelle. Adam a marché avec Dieu. C'est lui la première personne à marcher avec Dieu. Il connaissait tout de Dieu. Vous savez, Adam vivait comme ça avec Dieu, comme ça. Mais le jour où il a péché, c'est fini. Comment Enoch a connu Dieu? Parce que chaque soir, chaque matin, quand Enoch s'est réveillé, il allait voir son grand-père. Son grand-père lui disait, ah, tu sais, nous, moi, quand je fus créé, j'étais là-bas, en Éden. Et Enoch disait, raconte-moi cette histoire. Adam lui parlait. Pour Adam, c'était une histoire. C'était une histoire. Cette histoire, à force, cette histoire commençait à prendre vie dans Enoch. Un jour, Enoch a dit à son grand-père, mais grand-père, c'est toi qui as péché. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est toi. Si Dieu a dit que vous pouvez marcher avec lui, si toi tu as péché, moi je n'ai pas péché. Enoch a dit, moi aussi je vais marcher avec ce Dieu. Vous pensez qu'à l'époque d'Enoch, il n'y avait pas tout ce que nous avons aujourd'hui? Écoutez bien. À l'époque d'Enoch, écoutez ce que la Bible dit. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Vous n'êtes pas belles aujourd'hui. Vous avez 25 ans, 35 ans, les rides commencent à sortir. C'est un exemple. Je n'ai pas dit. Vous n'êtes pas belle par rapport à cette époque-là. Je rectifie. Parce qu'à cette époque-là, une femme pouvait aller à 900 ans. C'était comme une fille de 18 ans. Alors imaginez-vous, à son époque. Parce que les femmes de cette époque-là, quand vous les regardez, à cette époque-là, mais Enoch a fait un choix. Bien qu'il y avait de belles filles, mais ce n'était pas ça qui l'intéressait. C'est Dieu qui l'intéressait. Il marche avec Dieu. Les belles filles le voyaient sortir. Le matin, il va, il marche avec Dieu. Il a tellement marché avec Dieu que Dieu dit non, 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 non. Un jour, il est parti. Il n'est plus revenu. Un jour, vous allez partir. Continuez à marcher avec lui. Même si vous ne voyez rien, continuez à marcher. Un jour, quand ça va arriver, tout le monde va dire, maman, maman, monsieur, pourquoi? La foi te permet de prendre ce qui est à l'invisible, de l'amener dans le monde visible. La foi te permet de dire même à Dieu, laisse ton trône et viens avec moi. La foi, c'est la chose la plus importante. Pourquoi aujourd'hui, je peux prendre mes notes, je finis. Pourquoi aujourd'hui il nous est difficile de marcher par la foi? Rapidement. L'homme a vécu longtemps en dehors de la volonté de Dieu. Sa connaissance a été cautérisée. Sa connaissance a été complètement, je dirais, réduite à tel point qu'il ne peut pas comprendre et saisir ce que Dieu dit. Quand Jésus-Christ vient, la première chose qu'il apporte, c'est la parole. La foi naît de quoi? La foi ne naît pas de supposition ou de suggestion. La foi naît de la parole. Pourquoi il n'y a pas tant de foi? Parce qu'il n'y a pas tant de parole. Les gens veulent avoir la foi, pas dans la parole, mais la foi dans leurs besoins. Ils pensent que la foi naît par rapport à un besoin. La foi naît par rapport à la parole. Si vous voulez faire naître la foi par rapport à un besoin, vous allez échouer. La foi doit naître par rapport à la parole. Rapidement, je vais lire mes notes. Voilà. Notre foi, voilà. Et ce que j'allais dire ici, pour que vous puissiez atteindre la dimension, la quatrième dimension, il faut que la foi devienne une attitude. Répète après moi, une attitude. Qu'est-ce qu'une attitude? Une attitude, c'est une manière de se tenir, de se comporter qui correspond à une certaine disposition psychologique qui a été déterminée par nous. Ce n'est pas par rapport à la situation. Je ne me tiens pas par rapport à la situation, mais par rapport à la façon dont je suis psychologiquement pour comprendre et savoir ce qui va se passer. Notre foi, maintenant, pour qu'elle puisse arriver dans la dimension de l'attitude, doit sortir de Dieu lui-même, doit trouver son fondement à Dieu. Et la foi n'est pas simplement le fait de croire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient. Mais la foi, elle est différente du simple fait de croire. La foi et l'action de croire sont les deux revers de la médaille. Le fait de croire déclenche les choses. Quand tu crois, tu commences à déclencher ce qui va arriver. Mais le fait de croire ne te permet pas d'avoir ce que tu veux avoir. Il y a une différence entre espérer et croire. L'espérance est dans la foi, mais l'espérance n'est pas la foi. Il y a beaucoup de gens qui espèrent. Oui, moi j'espère que ça va aller bien. Voilà pourquoi la Bible dit, Christ en moi l'espérance de là. Mais tant que vous restez dans l'espérance, la gloire ne se manifeste pas. Et la Bible va plus loin, il dit, si quelqu'un est en Christ maintenant, j'aime ça. Tant que Christ est en moi, j'espère quoi? La Bible maintenant dit, si quelqu'un est en Christ, qui a compris? Vous avez une bouteille là? Merci. J'ai une bouteille. Vous avez de l'eau? J'ai une bouteille avec de l'eau. Christ en moi. J'espère quoi? Prenez un exemple. Moi, je suis la bouteille. Christ est l'eau. Tant que Christ est en moi, j'espère quoi? J'espère la gloire. Tant qu'il est en moi, j'espère la gloire. Je suis dans l'espérance que la gloire va se... Mais tant qu'il est toujours en moi, j'espère qu'il va se manifester. Mais je reste toujours dans l'espérance. Paul Menet explique, il dit, non, il ne peut pas toujours rester en vous. S'il reste en vous, vous allez rester dans l'espérance. Maintenant, il dit, maintenant, si quelqu'un maintenant est en, qui est, vous avez un seau, mettez de l'eau dans un seau, amenez le seau ici. Je vais vous montrer. Une bassine ou un, je ne sais pas, quelque chose. Trouvez. Je vais vous montrer la différence. Là, Christ est en moi. J'espère là. Je suis limité. Parce qu'il est en moi. C'est fermé. Mais maintenant, quand je me mets maintenant en Christ, la Bible dit, toute chose Non, son devenir. Il y a comme la différence. Tant que je laisse Christ en moi, je continue à vivre dans l'espérance. Le jour où maintenant je vais comprendre que c'est Christ qui est en moi, il n'est pas là pour rester en moi. Il est là pour que je puisse maintenant les laisser sortir, afin que moi je sois en. Qui a compris? Mais oh! Pour que nous puissions arriver là, j'ai un verset. Romains. Vous avez compris ce que j'ai dit? Sabine, tu as compris? Non, madame. Un saut. Ils vont voir. Merci. Verset 11. Je vais nous aider ce soir. Je vais nous aider ce soir. Vous avez trouvé Romains 13. Vous avez trouvé. Oh, amen. Vous avez trouvé. Ok. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous. Tout dépend du temps. Pourquoi Christ reste toujours en? Parce que les gens n'ont pas compris le temps. Je vais commencer par le temps. Quand vous comprenez ceci chaque temps, votre attitude change. L'attitude, la façon dont vous vous habillez change par rapport au temps successif qui se présente dans votre vie. Okay? Quand nous allons finir le culte, nous allons rentrer chez nous. Nous allons nous déshabiller pour se mettre dans une tenue confortable pour manger. Ok? Et après, quand nous allons nous habiller, nous allons encore nous mettre dans une tenue pour nous coucher. Qui comprend? Pourquoi qui sait toujours? Hein? Parce que nous ne connaissons pas l'importance du temps dans notre vie. Chaque saison, chaque temps, dans ta vie, tu dois changer ton attitude par rapport à ce qui est à l'intérieur de toi. Qui comprend ce que je dis? Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. L'Église doit savoir à quel temps nous sommes. Nos attitudes doivent changer, nos comportements doivent changer. Notre façon de fonctionner doit changer. Parce que si nous ne comprenons pas le temps dans lequel nous sommes, je ne sais pas si je vais arriver là, si j'aurai encore le temps. Pour vous montrer que la foi arrive dans chaque dimension selon les saisons. Dieu a dit à Abraham, à 75 ans, tu auras un fils. Mais le fils ne pouvait pas arriver parce que lui, il n'était pas encore arrivé à la dimension de la foi. Parce que chaque dimension de la foi ouvre une nouvelle saison dans votre vie. Chaque dimension des saisons ouvre un nouveau temps dans votre vie. Qui comprend? Si vous restez dans la première dimension, vous restez au même temps. Vous pouvez rester 20 ans. Mais pour Dieu, le temps n'a rien à voir avec votre âge ou vos années d'aller à l'église. Le temps a à voir avec la révélation que vous recevez qui change la dimension de votre foi. La saison pour Dieu ne commence pas par rapport au chronos ou âge. La saison pour Dieu commence par rapport à kairos. Qui veut dire quoi? La saison, le temps de la manifestation de la révélation. Donc ça doit importer beaucoup plus. L'important c'est quel temps ou quelle dimension dans laquelle je suis. Parce que chaque dimension de ma foi ouvre une saison. Maintenant il dit quoi? C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Quel sommeil? Pas physique. Parce que si je me réveille du sommeil, je dois mettre un nouveau habit, de nouveaux habits, par rapport au temps que je vais maintenant accomplir par rapport à la journée. Il dit, réveillez-vous. Car maintenant, le salut est plus près de nous lorsque nous avons. Regardez bien. Croire et salut, même sont différents. Tu peux croire, mais ne pas vivre le salut. J'ai enseigné ça. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Pourquoi? Parce que la saison, chaque saison nous amène dans une nouvelle dimension pour que nous puissions nous approcher du but de notre vie. La Bible dit le salut est plus près. La nuit est avancée, le jour approche. Il dit maintenant quoi? Dépouillons-nous donc des œuvres de... Ça veut dire quoi, œuvre de ténèbres? Œuvre de ténèbres ne veut pas dire péché. Quand on parle d'œuvre de ténèbres, les gens passent toujours à la fornication, à l'adultère, le fait de boire l'alcool, de fumer. Tu penses à tout ça. Œuvre de ténèbres ne veut pas dire simplement ces choses. Œuvre de ténèbres veut simplement dire dépouillez-vous du manque de connaissance de la parole de Dieu. La Bible n'a pas dit mon peuple périt parce qu'il pêche. Laissez-moi vous dire, j'ai un enseignement que je vais faire sur la justice de Dieu. Ça va changer votre conception par rapport au péché. Le péché n'est pas un problème pour Dieu. Le péché est un problème pour toi, ta conscience. Un exemple. Réveille-toi. Viens. C'est la fille de sa maman. Ok? Elle est née celle qu'elle est, elle n'a pas cherché à être celle qu'elle est. Elle est née par la volonté de cette dame. Dis-moi, ma chérie, tu es toujours sage à la maison?
Oui.
Tu ne fais pas de bêtises?
Non.
C'est bien, elle ne fait pas de bêtises? Toute la journée, maman dit que toute la journée. Ok. Je vais croire à maman qui a sinon. Alors, un exemple. Elle n'est pas sa fille parce qu'elle fait de bonnes choses. Elle est sa fille par naissance. Ce qu'elle fait ne la qualifie pas d'être sa fille. Elle est sa fille par naissance. Vous comprenez ce que j'ai dit? Elle est sa fille par... Elle n'a pas dit, cette dame n'a pas dit, pour que tu sois ma fille, il faut que tu me garantisses que tu vas faire de bonnes choses. Vous comprenez? Faire des bêtises n'est pas une garantie pour qu'elle soit sa fille. Le simple fait qu'elle est née sa fille, qu'elle est ça. Qu'est-ce que je vais expliquer par là? Le péché n'a jamais été un problème pour Dieu. Pourquoi? Parce que avant que tu naisses, Dieu savait que tu allais être dans le péché. Qui a compris? Mais il te dit maintenant, quand bien que je savais que tu allais être dans le péché, j'avais déjà quand même fait un plan. Donc mon plan est plus puissant que les. Mais pourquoi le péché devient un problème pour nous? Parce qu'on nous a enseigné toujours la conscience du péché. Toutes les fois, quand moi j'ai commencé à aller à l'église, à chaque fois on me dit, ne péchez pas. Si tu pêches, tu vas en enfer. Ne péchez pas. Je suis déjà en enfer. Vous me dites, j'irai en enfer. Je suis déjà. Nous sommes déjà en enfer quand notre mariage ne marche pas. Nous sommes déjà en enfer. Vrai ou faux? Tu es déjà en enfer quand tu ne travailles pas. C'est un calvaire. Quand tu es malade, quand tu es angoissé, oppressé, dépressif, opprimé, comprimé. Tu es déjà en enfer. C'est l'enfer, non? Oui ou faux? Tu roules dans une belle voiture, mais tu es derrière le volant de voiture, tu pleures parce que rien ne va. C'est déjà l'enfer. Et à l'église, on dit, si tu pêches, tu vas dans la paix, tu pêches. On nous a rempli la conscience. La seule chose qu'on nous dit, qu'on nous parle à l'église, péché, péché, péché. Et nous sommes remplis de la conscience du péché. Et vous savez quoi? Quand vous lisez les versets qu'on a utilisés pour la conscience du péché, ça n'a rien à voir. C'est le seul verset qui parle du péché. C'est que tout le monde utilise. Dans Romains, chapitre 3, verset 26, je pense, si j'ai une bonne mémoire. La Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire des... Et ils en ont fait tout un enseignement. Et vous allez vous rendre compte, c'est ce seul verset qui parle du péché dans tous les chapitres. Au premier verset, il parle de la justice. Dernier justice, toi... Mais le seul verset, comment vous allez prendre un seul verset dans un chapitre qui n'a rien à voir avec ce sujet-là et vous allez en faire toute une doctrine? Ce chapitre-là ne parle pas du péché. parle de la justice de Dieu. Comment vous parlez quelque chose qui n'a rien à voir avec le sujet? Donc, voilà pourquoi je n'aime pas ce mot-là chrétien. Dieu nous a pas appelés à être des chrétiens. Dieu nous a appelés à être ses fils et ses... Quand tu es un fils, une fille, tu as des droits. Maintenant, la foi nous permet de pouvoir entrer. Il dit maintenant quoi? Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la... Âme, la lumière, vestiment m'a dit, rentrons dans la connaissance de la révélation de la parole de Dieu. Verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour. Loin des excès et des livronneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des... Le verset 14 que je voulais utiliser. Mais revêtez-vous de quoi? Quand tu es en Christ, quand Christ est en toi, qui revêt l'autre? Répondez-moi. Quand Christ est en toi, Christ est en moi, qui revêt l'autre? C'est moi. Maintenant, quand je comprends mon temps, je ne laisse plus Christ rester en moi parce que je l'étouffe. Il faut que Christ sorte de moi afin que je puisse le revêtir. Parce que si lui me revêt, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. La Bible dit, si tu connais les temps dans lesquels tu arrives, tu changes ton attitude. Tu ne laisses plus Christ en toi, tu le revêts. Qui comprend ce que je dis? La foi te permet de sortir de la dimension dans laquelle tu vois les choses naturelles. Tu donnes la considération aux choses naturelles pour entrer dans la dimension que tu donnes la considération aux choses spirituelles. Je vais essayer de finir mes notes rapidement. La foi, ce n'est pas simplement le fait de croire. La foi et l'action de croire sont les deux revers de la médaille. Le fait de croire déclenche les choses. La foi les amène à leur terme. Le fait de croire va de votre tête vers votre cœur avant que vous puissiez agir. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une dimension de celle qu'on ne voit pas. Donc, la foi, on le définit comme une certitude, comme le titre d'un droit. Des choses qu'on espère, la preuve de l'existence des choses qu'on ne voit pas et la conviction qu'elles sont réelles. Voilà la foi. Même si je ne vois pas, du fait que j'ai un titre, je sais que ces choses sont réelles. La foi discerne comme étant réel ce que nos sens ne discernent. C'est que tes sens ne discernent pas, la foi les discerne comme réel. Quand Moïse était devant Pharaon, il ne voyait pas Pharaon, il voyait Dieu. Parce que s'il voyait Pharaon, il allait laisser la peur de terroriser. Mais comme il voyait Dieu, il n'a pas eu peur de Pharaon. Il a dit à Pharaon, je vais quitter l'Égypte parce que je vois la rémunération. Je ne te vois pas, mais je vois celui qui est plus grand que toi. Quand le problème est devant toi, que tu marches dans la foi, tu ne vois pas les problèmes, tu passes au-dessus des problèmes. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un a foi en Dieu, dira à cette montagne. Pas Dieu qui dira, toi tu dis à la montagne. Qui dit à la montagne? Donc la foi dit, la foi parle. Dit, répète après moi, la foi parle. La foi ne parle pas de négatif, la foi parle de choses positives. Quand tu vois la situation, les médecins te disent, madame, nous sommes désolés, ton cas est un cas désespéré. Il n'y a plus de solution. Tu dis au médecin, tu as droit de dire ce que tu veux. Mais je n'ai pas le droit, moi, de croire à ce que tu me dis. Mais oui, je sais que tu as droit de dire ce que tu dis. Mais je sais aussi que moi, j'ai reçu le droit de ne pas croire à ce que toi tu dis. Pourquoi? Parce que moi, quand je suis rentré dans le livre de mon père, le livre de mon père m'a donné un titre. Le livre m'a donné. Comprenez bien ce que je veux dire. Parce que ce que les médecins te disent, on appelle ça une prescription médicale. Donc, il a droit de prescrire son ordonnance par rapport à votre cas. Mais il faut savoir aussi, vous avez aussi le droit de croire à la prescription divine qui vous a été donnée. Le médecin a dit c'est ça. Mais vous vous dites ce n'est pas ça parce que moi, mon père m'a dit c'est ça. Mais maintenant, le problème, c'est pas au niveau de ce que tu vois, mais au niveau de ce que tu crois. Ok? Je vais finir. Alors, la foi et la parole de Dieu sont la même chose. Comment la foi vient? C'est au travers de la parole de Dieu. Donc, il est nécessaire que la foi se trouve dans nos cœurs, se manifeste continuellement par nos paroles. Tu ne peux pas avoir la foi dans ton cœur et ne pas l'exprimer. Car la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La foi se trouvant dans votre cœur est activée par ce que vous dites. Vos paroles donnent puissance à la foi et amènent ce que vous croyez du monde spirituel au monde naturel. Votre foi grandit de plus en plus dans votre cœur jusqu'à ce qu'elle sorte de votre bouche et que ces paroles deviennent réalité dans votre vie. La foi n'est pas quelque chose que l'on peut voir. La foi, on ne le voit pas. Néanmoins, lorsque la parole de Dieu et ma foi sont en harmonie, il y a des résultats visibles. La parole de Dieu qui est visible devient l'assurance de choses que je ne peux pas encore voir. La parole de Dieu qui est une confirmation, comme un titre de propriété des choses que j'espère. Tout comme la justice de Dieu, nous devons mettre en pratique ce que j'appelle l'interrupteur de la foi. Un exemple, quand vous voulez allumer une lampe, vous passez par l'interrupteur. Ce n'est pas la lampe que vous touchez. Vous touchez quoi? Un bouton. Qui a compris? Vous n'avez pas besoin de toucher la lampe. Vous avez besoin d'appuyer sur un bouton. Vous n'avez pas besoin de voir ce que Dieu vous dit. Activez votre foi. Qui a compris? Je n'ai pas besoin de voir, bon, il faut que je passe par les circuits pour voir si ça va aller. Mais non, dès que je viens, je sais que... Qui a compris? Quand le diable vient, activez la foi. Comment activer la foi? Allez dans la Bible. Ok. Vous êtes malade. Le médecin dit que vous êtes malade. Ok. Il faut maintenant activer votre foi. Comment l'activer? Va dans la Bible. Cherche tous les versets qui parlent de la guérison divine. Commence à les proclamer. C'est comme ça qu'on active. Proclame ces versets. Proclame ces versets. Commence à t'imaginer guéri. Être guéri. Commence à t'élever à marcher comme une personne guérie. Ne reste pas cloué sur ton lit. Non. Commence à faire des choses que tu espères voir. Commence à passer par des mouvements, par des actes. Alors, nous ne voyons peut-être pas de résultats immédiats dans le domaine naturel. Mais cela ne signifie pas que rien n'a changé dans le monde spirituel. En tant que croyant, nous ne confondons pas notre vie, nous ne fondons pas pardon, notre vie sur ce que nous voyons. Nous marchons par la foi, non par la vue. Donc, nous n'avons pas à lutter pour faire fonctionner notre foi lorsque rien ne semble marcher. Vivre par la foi, cela demande que nous fassions confiance à Dieu sans tenir compte de ce que nous traversons. Je peux traverser des difficultés, mais cela ne peut pas me motiver ou cela ne peut pas me conditionner à vivre selon ce que je vis. La seule chose qui me conditionne à vivre selon ce que je veux, c'est la parole. Qui a compris? Je ne peux pas laisser les circonstances, les situations déterminer mon attitude. Parce que sachez que la foi, c'est une attitude. Si les situations changent mon attitude, donc je descends d'une autre dimension. Qui a compris? Je ne peux plus créer des situations, des circonstances. Maman. Maintenant, le diable fait quoi? Il amène des problèmes pour que je sorte de la quatrième dimension qui est une attitude. La quatrième dimension, c'est l'attitude dans laquelle tu marches devant les situations. Qui comprend? Qui comprend ce que je dis? Vous allez vous rendre compte, la première chose que le diable attaque, le diable amène quand il y a un problème, c'est ton attitude. Il sait que s'il change ton attitude, il te fait descendre d'un cran. Parce que la quatrième dimension de la foi, c'est quoi? C'est une A. Ok. Un jour, Dieu dit à Abraham, tu auras un enfant. 75 ans, 80 ans, 85, 90. Sa femme dit, non, je te donne un coup de main. Paf. Et Dieu dit, non, c'est pas ça. Il retourne encore dans la foi. Et à 99 ans, Dieu vient. Il dit, Abraham, à cette époque-ci, À la même période, à la même heure, je reviendrai vers toi. Tu auras un enfant. Sa femme a entendu, sa femme Marie dit non, ce n'est pas possible. Quand vous lisez Romains 4, ça vous fait dresser les cheveux. Romains 4 dit, je vais le lire. Romains 4, je vais le lire pour finir. Romains 4 dit ceci. J'aime ça, j'aime ça. Là où toute espérance paraissait insensée, espérant contre toute espérance, ce que dit votre version. Vous avez trouvé? Quel verset 18? Excusez-moi, je suis tellement pressé pour finir. Espérant contre toute espérance. Parce que quand la foi agit là où on dit qu'il n'y a plus d'espoir, là où on dit que c'est fini, c'est un chaos total et complet. Là où on dit que tu ne vas plus t'en sortir. Là où on dit que tu es complètement fini. Tu es complètement fauché. Tu as fait une banqueroute, tu ne pourras plus te relever. C'est fini, ton mari est parti. Ta femme est partie. Tes enfants sont dans la prostitution. Ils sont dans la fornication. C'est fini, c'est fini. Tu es 0-0-0. Dis, ce n'est pas grave. Même si je suis un néant, au travers du néant, tu vas faire sortir quelque chose. Alléluia. Même si je suis un zéro, devant ces zéros, tu mettras un chiffre. Espérant, là où toute espérance paraissait insensée, il a espéré et il s'est cramponné. J'aime ça. Il s'est cramponné avec foi à cette promesse. La foi, ce n'est pas quelque chose que vous voyez. C'est quelque chose que Dieu vous donne comme parole. La Bible dit qu'il ne s'est pas cramponné à l'enfant. Il s'est cramponné à la promesse. Il s'est cramponné à la parole. Si Dieu l'a dit, il le fera. Peu importe le temps que ça prendra. Voilà pourquoi vous devez passer par les épreuves pour que ça puisse faire naître la patience. Pourquoi beaucoup de gens sortent dans la dimension de la foi, frère? Parce qu'ils sont plus patients. Ils abandonnent facilement. Oui, on m'avait dit, oui, on t'a dit. Je n'ai jamais vu une femme qui est enceinte, qui accouche un mois après sa grossesse. C'est un enfant prématuré et l'enfant, on appelle ça avortement ou fausse couche. Il y a des fausses couches. Ok. Pourquoi aujourd'hui le monde est mis sens dessus-dessus? Il y a des gens qui passent tout leur temps à penser comment former une bombe liquide pour détruire un avion. Ils vivent que pour ça. Il y a des gens qui vivent que pour détruire. Vous savez la raison, c'est quoi? C'est l'impatience. Si Abraham était impatient, il aurait dû nous débarrasser de certaines choses. On n'aurait pas eu des contraintes de voyager comme des boucs aujourd'hui, comme des... Quand vous êtes dans un aéroport aujourd'hui, c'est difficile. Hein? Vous ne pouvez pas laisser votre sac quelque part. Il y a des caméras partout. Même vous rentrez dans les toilettes, il y a des caméras. Il n'y a plus d'intimité. À cause de l'impatience. À cause d'Ismaël. Il mène la vie dure à tout le monde. Tout le monde. Quand vous allez aux États-Unis, c'est une caverne de Dali Baba. On t'enlève chaussures, chaussettes, on t'enlève ceinture, on t'enlève même, si tu as des pantalons, tu enlèves tout ça. On peut même te laisser nu. Ah! À cause d'Ismaël. Vous vous rendez compte comment l'impatience peut changer tout. Aujourd'hui on ne sait plus si. On ne sait plus. On s'attend simplement, on arrive à l'aéroport, qu'il y ait une nouvelle loi qui soit votée. Les gens, tu ne peux plus acheter un parfum. C'est fini. Et regardez bien. Mais maintenant, toutes les personnes là qui travaillent avec qui vendent des parfums, duty free, tout ça là, ils sont obligés de fermer. J'ai regardé, au bout de 3 mois, ils ont fait 70% de pertes de chiffre d'affaires. C'est beaucoup. À cause de quoi? De l'impatience. Parce que Abraham n'était pas patient. Ton Ismaël va naître, mais ne laisse pas naître. Sois patient. Attends ton Abraham et ton Isaac. Frère, sœur, s'il te plaît, sois patient. Sois patient. Sois patient. Ne te presse pas, ma sœur. Enfin, sois patient. Ismaël fait mal. Mais Isaac, c'est l'enfant de la promesse. L'enfant de la bénédiction. Attends. Il y a un temps marqué. La foi fonctionne selon les temps. Les gens pensent que parce que j'ai la foi, j'aurai tout facilement. Non,
il y a des dimensions. La foi n'exclut pas des problèmes, la foi n'exclut pas des difficultés. C'est quand tu rentres dans la dimension de la foi, dans cette dimension-là, que les problèmes s'accentuent même. Tu te rends compte? Tu es à 100% dans le ministère. Et paf, un jour tu apprends que tes enfants sont dans la rébellion. Un jour, le pasteur qui a la plus grande église au monde, un jour, il était tellement fatigué par rapport à ce que son enfant faisait, le pasteur Young Shu. Alors son enfant lui faisait voir de toutes les couleurs. Il était tellement fatigué, il a pris un couteau. Il a donné à son enfant, il dit, au lieu que tu continues à me faire honte, tue-moi, parce que je suis fatigué. Lui, il sort avec toutes les filles de l'église, il faisait n'importe quoi. Son père dit, il a prié, il dit, Seigneur, tu ne sauves pas mon fils, prends un couteau. Son fils a dit, non, papa, non, je ne peux pas te tuer. Toi, tu parles, quand tu prêches, tu dis que tu as vécu ça, tu as ton expérience. Laisse-moi suivre mon expérience à moi. Vous savez, les gens, quand ils voient des hommes de Dieu, ils disent, ah, waouh. Je vais vous raconter une histoire, mais ça reste entre nous. Ne parle à personne. Dites à ton voisin, ne dis ça à personne. Ça reste ici. C'est un secret, hein? On était assis un jour, on parlait, et c'est Joanne qui nous parlait. Ils ont été en Océanie, ils devaient faire une croisade. Ils avaient toute l'équipe de Bénin. À cette époque-là, ils étaient avec Bénin. Toute l'équipe de Bénin. Ces chanteurs, ces musiciens, et sa fille est née. Sa fille est née partie avec eux. Arrivée là-bas, sa fille est née était dans une période de rébellion. Bénin a fait une croisade formidable, les guérisons de miracles. Alors ils sont rentrés à l'hôtel. Vers 22h, sa fille vient. Elle frappe à la porte. Papa, je vais te voir. Elle me dit. Je vais aller danser dans une boîte de nuit, accompagne-moi. Béni a dit, c'est quoi cette histoire? Il dit, tu m'accompagnes aujourd'hui, si tu ne m'accompagnes pas, je vais faire du scandale. Alors, elle a menacé son père. Je fais du scandale, je ne m'accompagne pas dans cette boîte de nuit. Béni dit, alors les gars de Béni sont venus, ils ont dit, on va t'accompagner. Il dit, non, vous ne vous appelez pas Béni, c'est lui Béni, c'est celui mon père qui va m'accompagner. Elle a fatigué son père. Béni a dit, il n'y a pas de problème, je vais aller. Il s'est déguisé, bref. Ils sont allés dans la boîte de nuit. Ils sont rentrés. C'est une histoire vraie. Vous allez comprendre et réaliser comment Dieu agit. Ils sont rentrés. Béni est assis. Sa fille a dit, je commande, c'est toi qui payes. Si tu ne payes pas, je fais scandale ici. Et les gars a payé, il a commandé whisky. Mais les gars maintenant étaient avec son chapeau, il s'est caché. Bénin, là que vous voyez. Les grands Bénin là. Il était assis et la fille a fait. À ce moment, la fille dit, maintenant je vais danser. Viens danser avec mon papa. Et son père dit, ma fille, tout sauf ça. Il dit, si tu ne fais pas ça, tu as fait la croisade tout à l'heure là. Je vais faire du scandale ici. Alors bref, les gars de Bénin sont venus dire, c'est pas grave. Hein? Il t'a amené ici. Mais pour danser, tu danses avec nous. Vous voyez les gars de Bénin qui chantent là. Ils ont dansé comme ils n'ont jamais dansé. Alors, imaginez-vous maintenant, vous êtes dans la croisade et vous rentrez. Vous voyez ça. Imaginez-vous. Quelle allait être votre condition? Votre attitude? Scandale. OK? Mais le problème, c'est que vous ne savez pas. Parce que derrière, pourquoi Dieu a fait ça? Parce que Dieu voulait amener sa dimension de foi à une autre dimension. Parce que maintenant, demain, il fallait qu'il aille prêcher. Il fallait qu'il s'attende au miracle. Mais la nuit, il était... Je ne vous dis pas d'aller dans une boîte nuit pour aller. Je n'explique pas ça. Je ne dis pas ça. Je vous explique. Je vous montre comment les choses, comment Dieu fait passer des gens dans des situations où, humainement parlant, tu te dis, je n'ai plus de solution. Bref, Dieu a touché cette fille d'une manière spectaculaire. Aujourd'hui, elle est devenue prédicatrice. Elle enseigne. Pourquoi? Parce que son père, bien que cela s'est passé, il est resté dans la foi. Qu'est-ce que je vous dis par là? Peu importe ce qui se passe, restez dans la foi. Accrochez-vous, pas à ce que vous voyez, mais à ce que Dieu vous a dit. Ne voyez pas les circonstances. Laissez pas les circonstances déterminer votre attitude. La quatrième dimension de la foi, c'est l'attitude. Le jour où vous changez votre attitude par rapport à la parole de Dieu, vous changez d'étape. Qui a compris? C'est dans cette dimension que tu vas commencer à appeler à l'existence des choses. Quand ton attitude est dans cette, ta foi est dans cette attitude, tu commences à appeler des choses à l'existence. Tu commences à proclamer et tu le vois s'accomplir. Amen. Nous allons finir cette lecture. À cette promesse, nombreuse sera ta descendance. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples. Naturellement, il savait qu'étant presque centenaire, son corps n'avait plus le pouvoir de procréer. Il savait aussi que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais toutes ces considérations ne l'ont pas fait vaciller dans sa foi. S'appuyant sur la promesse divine, il ne s'y combat pas au doute. Puisant sa force dans la foi, il fit honneur à Dieu. Étant pleinement persuadé que Dieu est capable de tenir sa parole et d'accomplir ce qu'il a promis. Voilà ce que je voulais dire. C'est précisément cette attitude qui lui attira la bienveillance divine. Votre version ne le dit pas. C'est précisément cette attitude. La foi est-il, répète après moi, la foi est une attitude. La foi, ce n'est pas ce que tu vis, c'est une attitude devant ce que tu vis. Si ton attitude est affectée par des problèmes, sache que tu descends d'un cran. Et quand tu descends de la troisième dimension, tu es dans la dimension du naturel. Rien. Parce que la troisième dimension, c'est la foi est comme une loi. Une loi, c'est un fondement. Tu es au niveau du fondement. Mais une attitude n'est pas au niveau du fondement. Une attitude, le mot attitude est tiré d'un mot qui vient de l'aviation. Ce mot-là a tiré son étymologie dans l'aviation par rapport à l'altitude. L'altitude qu'un avion a dépend de l'altitude dans laquelle il est. Si un avion va vers une montagne, automatiquement l'altitude dans laquelle elle est détermine son attitude. Donc, si dans cette altitude, le pilote ne change pas son attitude, il va s'écraser sur une montagne. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, si tu as la foi, tu diras à une, qui a compris? Quand la foi devient une attitude, ces versets-là maintenant déterminent ton altitude. Parce que dans l'altitude, c'est ton attitude maintenant qui sera déterminante. Vous avez compris? Il a une attitude. Cette attitude, je n'ai pas dit que vous n'aurez pas de problème. Quand un problème vient, cherchez le verset. Parce que la foi, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de foi sans parole de Dieu. Donc, nous n'avons pas alité pour fonctionner, pour faire fonctionner notre foi lorsque rien ne semble marcher. Vivre par la foi, cela demande que nous fassions confiance à Dieu sans tenir compte de ce que nous traversons. Notre confiance doit trouver sa source dans le fait qu'il est fidèle et qu'il tient ses promesses. Sachant ceci, notre foi, notre vie de foi devrait se dérouler sans difficulté. À ce stade-là, vous n'avez peut-être pas encore ce que vous espérez, mais vous avez la